bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Cette semaine, l'émission est consacrée à un journalisme un peu particulier, une forme d'information portée par des femmes, des hommes qui en ont assez de voir traiter par les journaux, les radios, les télés, des sujets soit anxiogènes, soit futiles. Elles et ils sont à la recherche d'expériences fortes, signifiantes, humaines, exemplaires et utiles. Des récits qui ont un début, un milieu et généralement une conclusion heureuse et édifiante.
Dans un petit village, Sidi Ifni, à 35 km à vol d'oiseau de l'océan Atlantique, c'est une région qui connaît une très forte densité de brouillard. Le brouillard est présent 143 jours dans l'année. Ils ont moissonné du brouillard pour récolter de l'eau potable. Et ça a un impact fulgurant sur le plan sanitaire. Ça a permis à des mamans et des petites filles, peut-être les mamans, de pouvoir s'occuper plus de leur foyer, les petites filles d'aller à l'école parce qu'il leur fallait plus de 3h30 pour aller chercher de l'eau. Et ce sont eux les acteurs de leur propre changement.
Dans l'émission de ce jour, vous allez entendre beaucoup d'histoires avec un problème et une solution, comme celle que vient de raconter la journaliste Meriem Oudghiri. Elle est secrétaire générale du quotidien marocain L'Économiste. Depuis 5 ans, sa publication a choisi d'intégrer un réseau international qui défend ce qu'on appelle le journalisme de solution. L'article sur le brouillard de Sidi Ifni, produit par L'Économiste au Maroc, a été partagé au sein de ce réseau et publié par plusieurs autres titres dans le monde.
Ça a eu un buzz extraordinaire sur le plan international. Donc, dès que ça a été mis dans le réseau, il y a eu par exemple un mécène sud-africain qui l'a lu dans le réseau local. Et bien, écoutez, il a pris l'avion, il a passé quelques jours avec ses villageois, et il leur a laissé un don de plusieurs milliers de dollars. Et petit à petit, il y a eu des reportages de chaînes étrangères qui sont venues. D'autres ONG sont venues voir un peu comment ça se passe, si eux pouvaient dupliquer ça. Je crois qu'en Jordanie, ils ont commencé à faire ça aussi.
L'atelier des médias.
Et voilà, c'est ça l'impact, c'est ça le journalisme de solution.
Ziad Malouf.
Vous l'aurez peut-être compris, les questions aujourd'hui dans l'atelier de journalisme d'impact, journalisme de solution. On parle également de journalisme positif, une expression qui est peut-être moins heureuse. Toutes ces locutions décrivent en tout cas un courant journalistique relativement récent, une quinzaine d'années, qui s'appuie sur des reportages montrant des réponses apportées à des difficultés du quotidien.
La presse traverse vraiment une espèce de Big Bang assez important.
Lui, c'est Hugues Dorzé, rédacteur en chef du bimensuel belge Imagine Demain le Monde. Il explique pourquoi, à ses yeux, le journalisme de solution prend de l'ampleur aujourd'hui.
On est surinformé, est-ce qu'on est mieux ou mal informé, je n'en sais rien, mais on est traversé par quand même énormément de transformations en termes de médias, avec désormais des journalistes qui sont aussi concurrencés par les réseaux sociaux, avec le fait que aujourd'hui le journaliste est de plus en plus robotisé, entre guillemets, confiné parce que manque de moyens, parce que précarité, parce que flexibilité, etc. Et donc cette information spectacle, parfois un peu people, divertissante, mais aussi facile. Je pense que le public commence à s'en détourner tout doucement, ou du moins est parfois lassé par le côté cynique, anxiogène, sensationnaliste de couverture ou de sites internet qui sont parfois racoleurs. Et donc je crois que quelque part, le public a besoin aussi d'autre chose. Alors on sait bien, l'information, c'est l'expression classique, quand un train arrive à l'heure, ce n'est pas une information. Quand il est en retard, ça devient une information. Mais je crois que quelque part, notamment une certaine jeunesse, notamment, sont en attente aussi de solutions, de perspectives, de recul. Et donc, je crois que quelque part, il est urgent à ce niveau-là de revenir dans un journalisme qui prenne en compte la complexité du monde et ne pas être du côté du manichéisme, d'être dans un journalisme qui informe vraiment, qui ne soit pas dans le populisme, dans la flatterie, dans la démagogie, et qui soit surtout aussi du côté de la créativité, de l'inspiration, d'un journalisme porteur de sens.
Qu'est-ce que le journalisme de solution ? C'est une question que pose Mathilde Saliou pour l'atelier des médias. Réalisation Simon Decreuse et Laurent Salerno.
Pour mon enquête, je suis allée à Tours le 14 mars. C'était le début des 11e Assises internationales du journalisme, la grande rencontre annuelle de la profession. À 14h, il y avait une table ronde dont le titre était « Un journalisme utile, un journalisme porteur de solutions ».
Parmi les panélistes, il y avait Damien Allemand. Il travaille pour Nice Matin, premier quotidien régional français à avoir créé une rubrique permanente de journalisme de solutions. Une innovation qui a suscité pas mal de critiques au sein du journal.
Les journalistes considéraient que le journalisme de solutions, ce n'était pas du journalisme. Déjà, dans leur imaginaire, c'était du journalisme positif, de bonnes nouvelles, et qu'eux, ils n'étaient pas là pour ça, qu'ils assimilaient ça à de la com, un journal de bisounours, et qu'ils n'étaient pas là pour ça. Donc il y a eu besoin d'avoir beaucoup de pédagogie en disant, voilà, s'il y a des solutions, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Si on parle des solutions, ça veut dire qu'on va aussi parler des problèmes. C'est juste une approche différente. C'est pour ça que je pense qu'il y a un gros besoin de pédagogie sur ce qu'est le journalisme de solutions dans son ensemble, que c'est pas juste un mot, c'est une démarche, et qu'elle peut s'inscrire dans la ligne éditoriale d'un journal. Alors, basculer entièrement un journal en solution, c'est très compliqué, mais ça doit en faire partie.
Ça fait une dizaine d'années qu'on entend parler de journalisme de solution, et particulièrement quand on couvre les questions liées au journalisme comme moi. Mais l'organisation d'une table ronde sur ce sujet aux Assises, c'est une forme de consécration pour ce courant.
Pour comprendre d'où vient ce mouvement, il y a une personne qu'il fallait que je rencontre, c'est Christian de Boisredon. En 2003, il a cofondé l'ONG Reporters d'Espoir et en 2011, l'entreprise solidaire Spark News. Et ces deux organismes font la promotion du journalisme de solution.
On l'écoute.
Alors, pour être honnête, en France, c'est clairement, effectivement, moi qui l'ai lancé avec notre Tour du Monde de l'Espérance, qui était un Tour du Monde avec deux copains, où on est allé voir les initiatives positives. Et on avait fait c'était le premier Tour du Monde relayé sur Internet. Et on avait,
c'était quand?
En 98, qui a donné suite à un livre qui, contre toute attente, a été un best-seller, ce qui n'était pas du tout quelque chose qu'on avait imaginé. Et c'est là où je me suis dit, mais si ça se vend, c'est que ces sujets-là intéressent les gens, et que l'idée reçue des journalistes comme quoi ça n'intéresse pas, ça ne fait pas vendre, est peut-être une idée reçue. Et donc, je suis allé voir plusieurs journalistes pour en parler. Bon, au début, je pense que j'étais très maladroit. Je parlais de journalisme positif, ce qui n'est pas effectivement la bonne approche. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, en 2003, j'avais lancé Reporter d'Espoir avec d'autres cofondateurs. Et on avait fait notamment une grande soirée à l'UNESCO avec 1400 leaders d'opinion, 400 journalistes, pour poser la question pourquoi ne pas parle-t-on pas plus souvent des solutions dans les médias? Donc il y avait des gens comme Claire Chazal, le patron des Échos, de Nouvelle Obs, de Elle, etc., qui ont débattu, et notamment le patron de Libé qui disait mais ça n'intéresse personne, etc. D'où l'idée de le convaincre de faire le Libé des solutions, ce qui n'était pas facile, très difficile de le convaincre au début. Finalement on l'a fait, il a donné le 26 décembre qui était le pire jour de l'année en termes de date, et finalement ça a été la meilleure vente de l'année. Et c'est là où on a pu convaincre en fait le monde des médias en France que effectivement les tracker-alerts n'intéressent personne et sans doute une idée reçue. Ce qui ne veut pas dire que dès qu'on parle de quelque chose qui parle de solution, ça ne veut pas dire qu'on fait systématiquement des audiences. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est possible si on le fait bien.
Pourquoi parler de journalisme positif, c'était pas la bonne approche?
Parce que ça sous-entendrait qu'il y a un journaliste négatif. Enfin, c'est très binaire en fait comme approche. Et le rôle du journaliste n'est pas d'être positif ou négatif. Son rôle, c'est de parler de ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe, c'est que le journaliste est naturellement envoyé plutôt là où ça fait du bruit, là où ça va pas. Et donc, il y a un moment où il a un prisme où il a l'impression que tout va mal dans le monde. Et donc, il oublie d'aller voir toutes ces pépites, tous ces gens qui construisent le monde, qui trouvent des solutions, qui n'ont souvent pas forcément d'attachement de presse, qui font pas forcément de bruit. Gandhi a une phrase qui dit l'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit et la forêt qui germe on l'entend pas. Et c'est vraiment ça en fait. Et à la décharge des journalistes, c'est très difficile d'aller trouver toutes ces pousses qui germent, qui sont des signaux faibles et que le journaliste n'a pas forcément le temps ou les moyens d'aller trouver.
Ça fait 15 ans que vous travaillez pour et dans le journalisme de solution. Quel bilan vous en tirez?
Bah, il y a 15 ans, pour être très honnête, on me riait au nez. Hein. Les journalistes me disaient, non, mais attendez, vous êtes gentil, vous êtes complètement naïf, c'est pas du journalisme. Je me souviens très bien d'un journaliste qui ensuite a été président de Radio France, qui, peut-être il y a 10 ans, on avait fait une conférence ensemble. Je lui ai bien expliqué avant, c'est pas du journalisme positif, c'est du journalisme de solution, j'avais donné des exemples. Et sur scène, il m'avait gentiment ridiculisé en disant, notre ami du journalisme positif, va pas trouver ça très positif, etc. Enfin, c'était vraiment très condescendant. Et je l'ai revu quelques années plus tard, il y a 3 ans. Il se souvenait absolument pas, bien sûr, de ce moment-là. Et je lui ai pas rappelé. Je lui ai raconté ce qu'on faisait. Et il m'a dit, mais vous avez raison. C'est vrai que chez Radio France, moi, j'ai vraiment poussé. Je pense que c'est vraiment important, etc. Et je pense, en fait, simplement qu'il a changé d'avis. Ce qui, avant, était de bon ton, de ridiculiser, est aujourd'hui devenu quelque chose qui est important à apporter dans la rédaction. Ça ne veut pas dire que toutes les rédactions le font, ça ne veut pas dire que tout le monde est convaincu, mais au moins on se dit oui, c'est important, il faut porter ces sujets-là. Et ça y est, maintenant, c'est vu, c'est identifié. Après, la question, c'est comment on le fait de façon non naïve, intéressante, etc.
Travaillent à mieux faire connaître le journalisme de solution. Parmi eux, il y a Reporters d'Espoir qui agit en France, Spark News qui coordonne notamment l'Impact Journalism Day, qui est la journée mondiale du journalisme d'impact. Il y a enfin le Solutions Journalism Network, en français Réseau du journalisme de solution. Il a été fondé aux États-Unis par David Bronstein et Tina Rosenberg, deux anciens du New York Times. Et ce réseau diffuse des articles de solution à travers le monde et il forme également à ce type de journalisme.
J'ai profité des assises internationales pour rencontrer Nina Facio, qui est la représentante en France et en Europe du Solution Journalism Network.
Nous, on est assez conservateurs en fait dans notre façon de faire. On a envie que le journalisme de solution réponde aux mêmes standards journalistiques que le journalisme traditionnel. Et vraiment, peu importe l'appellation, si ce n'est que j'insiste quand même sur le fait de ne pas faire du journalisme positif ou de bonnes nouvelles, parce que c'est pas, on va dire, l'excellence qu'on s'est fixée.
On parle de journalisme de solution aujourd'hui, puisque c'est le nom d'une des conférences qui a été faite aux Assises du journalisme 2018. Cela dit, on entend aussi parler de journalisme d'impact, de journalisme positif. Est-ce qu'ils recouvrent tous un même type de journalisme ?
Ils répondent tous à un même constat, qui est que l'information est anxiogène, créer un sentiment d'apathie chez la population, le public, et participe de la crise de confiance entre le public et les médias. Ça, c'est un constat qui est partagé par tous ces courants, on va dire, journalistiques, journalistes d'impact, positifs, etc. J'ai l'impression qu'il y a un penchant naturel des journalistes qui est en fait tout simplement très humain, d'être un petit peu moins critique et un petit peu moins rigoureux dans la couverture journalistique des solutions. Ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'on n'a pas forcément envie de critiquer une personne qui fait tout pour essayer d'améliorer les choses. Et pourtant, je pense que ça dessert au final ces solutions et qu'une couverture vraiment est rigoureuse, qui met en avant les limites de la solution, les difficultés rencontrées par les gens qui la mettent en œuvre, etc., la rendent plus crédible. C'est vrai qu'en plus, on a tendance à opposer le journalisme positif ou les nouvelles positives et les nouvelles négatives. Alors qu'en fait, moi je dis toujours, dans le journalisme de solution, on ne peut pas faire abstraction du problème. Au contraire, plus l'urgence du problème est mise en avant dans la solution, est palpable, plus la solution va être crédible et pertinente. Donc il faudrait juste arrêter de se dire que c'est une tendance, un mouvement un petit peu positif pour que les gens se sentent mieux. C'est tout simplement que, en parlant des solutions, on parle d'un aspect de la réalité. Donc ce ne sera pas toujours pertinent de parler des solutions, mais sur certains problèmes, ça l'est parce que le débat public est à saturation, on ne sait plus du tout quoi dire sur un problème, et ce serait peut-être en fait servir la société que de lui montrer qu'il y a des réponses qui marchent, quoi.
Vous pouvez nous donner un exemple de sujet pour qu'on se rende compte de comment on pourrait élever le débat grâce à la solution ?
Il y en a plein, mais c'est vrai que je donne souvent l'exemple d'Ebola parce que on voit bien comment arrive l'information. On a d'abord l'information qu'il y a une épidémie. Au début, on se sent pas forcément concerné. Ensuite, l'information se propage, est analysée. On a de plus en plus une conscience du problème, c'est-à-dire que le public commence à comprendre qu'il y a une urgence. Et ensuite, il y a une indignation qui se crée, une indignation face au problème, c'est-à-dire que au moment où l'indignation face au problème est à saturation, c'est le moment où on a l'impression qu'on est tellement impuissant face au problème qu'on va arrêter de s'informer. Et c'est le moment où c'est pertinent de parler d'une solution. Et c'est vrai que pour Ebola, plus on en parlait, plus on en rajoutait. Et en fait, tout ce qu'on fait au final, c'est créer de la panique. Et le Nigeria, avant les autres pays, avait trouvé une façon de contrôler le virus. Alors, pourquoi c'est pertinent de parler du Nigeria ? Parce que non seulement... ça montre que il y a un moment où effectivement, pour encore intéresser le lecteur au sujet, il faut aussi parler des solutions qui existent. Mais aussi, le contexte du Nigeria était très particulier. Donc, il y avait une partie de la solution qui pouvait être applicable à d'autres pays. Et ça, c'est ce que j'entends par les enseignements dont on peut tirer d'une solution. Et une partie qui était tellement propice, enfin, tellement inhérent au pays et au contexte sur place que c'était aux journalistes de dire attention, la solution a été rendue possible parce que ce contexte était là. Donc voilà, c'est une honnêteté journalistique et intellectuelle qui devrait toujours avoir lieu, y compris dans le journaliste de solution.
Quand vous arrivez dans une rédaction qui voudrait prêter un peu plus attention à ce journalisme positif ou journaliste de solution, comment est-ce que c'est reçu ? Est-ce qu'il y a des résistances des journalistes ou pas ?
Très globalement, oui, il y a une résistance des journalistes qui ont plus l'habitude, c'est comme ça qu'ils ont été formés, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait, de se concentrer sur les problèmes. Aussi parce qu'en tant que journaliste, dans son quotidien, les problèmes viennent à vous. Hein, on dit souvent les problèmes hurlent, les solutions murmurent. Et c'est un travail supplémentaire que d'aller chercher des solutions. Mais ce n'est pas par flemme qu'il y a une réticence, c'est parce que c'est vrai qu'il y a une vision du journaliste de solution très... comme une couverture médiatique assez superficielle, sympathique, positive, un journaliste de bonnes nouvelles pour le 20h du dimanche soir ou à Noël. Voilà. Et c'est parfois ce qui est pratiqué. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc moi, j'ai une réticence souvent au premier abord, mais très vite, qui tombe très vite, quand j'explique que, en fait... on fait plutôt un journalisme de réponse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller analyser comment les humains répondent à leurs problèmes et que c'est une part de notre réalité et qu'il faut aussi la traiter.
Vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. Cette semaine, Mathilde Saliou nous fait découvrir le journalisme de solution, également connu comme journalisme d'impact.
On doit, à certaines périodes et sur certains sujets, on doit parfois inventer des concepts, on doit mettre le doigt sur une réalité, sur un manque, pour le combler. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de journalisme de solution. Je suis Gilles Van Der Poten, je dirige l'association Reporters d'Espoir, qui œuvre pour le journalisme de solution. Moi, quand je parle de journalisme de solution, en fait, j'ai envie de parler de journalisme tout court. Parce que il s'agit de refléter la complexité du monde, qui est fait, évidemment, de difficultés, de résilience, de gens qui font face, qui tâchent de résoudre des problèmes. Donc, c'est du journalisme tout court. Comme il y a une tendance naturelle du journaliste à aller plutôt vers les sujets qui font du bruit, vous savez, la fameuse expression « si ça saigne, ça baigne », voilà, il y a cette tendance, et il ne s'agit pas de la freiner, mais il s'agit de compléter ce regard, d'être plus exhaustif.
Pour mieux couvrir les initiatives positives, Spark News organise par exemple une journée dédiée au journalisme de solutions. Au Solution Journalism Network, on organise des formations. Et j'ai demandé à Gilles Van Der Potten ce que faisait exactement Reporter d'Espoir.
Alors concrètement, un Reporter d'Espoir, on fait de la veille. C'est-à-dire on va identifier ces initiatives. Pour dire qu'il y a des solutions, encore faut-il les trouver. Donc on a un réseau de journalistes, de bénévoles, d'associations, d'entreprises. On s'appuie sur tout un tas d'organisations pour sourcer, pour identifier des sujets qu'on ne voit pas, pas du tout ou pas suffisamment traités dans les médias. Donc ça, c'est une chose. Une fois qu'on a ces initiatives, on peut créer des lignes éditoriales nouvelles. On encourage et on travaille avec des médias pour ce faire. Par exemple, Libération a créé le Libé des solutions avec notre concours. Rue 89, passage à l'acte. On travaille avec TF1, avec Le Figaro, enfin avec des médias très très variés. Voilà, c'est de l'accompagnement à l'émergence de rubriques, de d'émissions nouvelles. Mais l'idée, c'est quand même que les journalistes soient autonomes. Donc aussi, on fait de la formation. Ça fait 14 ans qu'on travaille sur le sujet, on a fait des études, on s'est intéressé à la recherche, à des travaux de recherche sur ce sujet, sur l'impact que peut avoir l'information sur les individus, sur la société, sur sa capacité à se mobiliser et à penser qu'elle peut agir et qu'elle elle n'est pas obligée de rester passive face aux événements. Tous ces résultats de recherche, il s'agit de les transmettre, de les partager dans la profession. Donc vous voyez quelques-unes de nos actions auxquelles s'ajoutent des grands rendez-vous pour la profession, comme le prix Reporter d'Espoir, qui aura lieu au mois de juin, la 9e édition. Ça fait 15 ans, on fêtera bientôt les 15 ans de Reporter d'Espoir. Ce prix, il est fondateur et il permet de mettre en valeur des journalistes qui sont dans cette démarche du journalisme de solution.
Comment est-ce que c'est reçu par les journalistes dans les rédactions quand des jeunes reporters d'espoir arrivent ou des gens de toute façon qui sont intéressés par le journalisme de solution arrivent et leur disent à partir d'aujourd'hui on va essayer de plus se concentrer donc sur l'impact, sur les solutions que sur les problèmes?
Aujourd'hui, cette idée elle est reçue majoritairement de manière positive. Les journalistes sont ouverts, se disent qu'il faut innover dans les lignes éditoriales, que eux-mêmes ont envie d'aller chercher des sujets nouveaux ou des angles nouveaux. Quand on s'est coltiné des années de faits divers, on a peut-être envie de passer à autre chose. Et par exemple, moi je vois des journalistes qui traitaient les banlieues sous l'angle des faits divers, parce que c'était leur manière de faire du journalisme, et qui à un moment donné se sont dit « comment je pourrais prendre de la distance par rapport à ça ? Est-ce que je suis obligé de ne traiter les événements et les faits dans les banlieues, dans les quartiers sensibles, uniquement quand ça clash, quand il y a une voiture qui brûle ?» Et certains nous disent « mais en fait, mettre une caméra sur une voiture qui brûle, c'est assez facile. Mettre une caméra sur... A posteriori, après que la banlieue, enfin ou la zone, est brûlée et était victime d'un événement de ce type, comment les gens se reconstruisent? Comment ils font en sorte que ça ne se reproduise plus? Et là, vous apercevez que il y a une association d'habitants qui s'est créée, qui a essayé de pacifier les choses, et ça marche très bien, ou ça marche mieux. Vous voyez, donc, il y a des journalistes qui trouvent un peu de respiration et de nouveauté dans cette manière de faire. Ça, c'est une raison importante qui explique la croissance du journalisme de solution. Après, il peut y avoir d'autres motivations. Ça peut être l'envie de s'engager. Vous savez, on parle de plus en plus de responsabilité sociale des entreprises. Bah, certains se disent, et ma responsabilité sociale de journaliste, c'est quoi? Bah, c'est peut-être dans mes contenus d'aller vers d'autres types de sujets. Pendant longtemps, on a dit qu'un événement, c'était forcément quelque chose qui était dans l'opposition, dans la catastrophe, dans le différent. Aujourd'hui, on commence à se dire que il faut refléter la complexité du monde et que dans des situations problématiques et conflictuelles, il y a aussi des enseignements à tirer. Et il y a aussi, si on élargit un peu son spectre, des remèdes, parfois. Des gens qui disent, comme il y a problème, il faut que je trouve une réponse, que je sois un individu ou un collectif. Et donc, notre rôle de journaliste, c'est vraiment de refléter cette complexité des réalités.
Pourquoi est-ce que le journaliste de solution a mis autant de temps à devenir un sujet et une aspiration de toute la profession, puisque maintenant on en parle aux assises du journalisme ?
Alors ça, on en parle aujourd'hui aux Assises du journalisme et c'est un acquis important parce que c'est le révélateur que la profession s'intéresse au sujet. Nous, ça fait 14 ans qu'on y travaille et on a vu la profession évoluer. Au départ, il y avait beaucoup de dubitatifs. C'est quoi votre truc? C'est de l'info, c'est de la com. Est-ce qu'on risque pas de promouvoir des initiatives plutôt que d'exercer un regard critique sur elles? Vous voyez, ça suscitait des questionnements. Et puis, je pense qu'ils ont été rassurés parce qu'ils ont vu que le journaliste de solution, que notre démarche se structurait avec une exigence, avec des sujets de fond. Il s'agit pas simplement de faire l'éloge d'une initiative. Il s'agit aussi d'aller voir des situations conflictuelles, d'aller voir la mafia en Sicile, d'aller voir au Nigeria comment on essaie de lutter contre Ebola. Vous voyez, des sujets qui tout de suite vous donnent du crédit parce qu'ils sont sérieux. C'est des sujets qui font actualité pour tout journaliste. Et donc quand vous démontrez que vous pouvez traiter ce genre de sujet, forcément, ça crée de la confiance. Dire, ah oui, c'est pas simplement du boy scoutisme, c'est pas simplement des trucs gentils. Non, il y a du contexte, il y a problème, et s'il y a problème, on peut donner du crédit aux réponses qui s'expriment face à ce problème. Il y a ça, il y a aussi de l'opportunisme un peu, c'est-à-dire des rédactions s'y sont mises et ont vu que ça marchait. D'autres se disent, pourquoi pas moi? Pourquoi j'échapperais à cette tendance si le Libé des solutions fait plus 24% de vente au numéro? Pourquoi je ne ferais pas mon journal des solutions moi aussi? Il y a tout un tas d'explications qui font qu'on en parle aujourd'hui davantage. Peut-être que aussi, à force d'en parler, ça fait 14 ans nous qu'on en parle en France et en Europe. Voilà, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs, si j'ose dire. Et puis, il y a de plus en plus d'expériences, de plus en plus de journalistes qui nous disent « j'ai envie de faire autrement ». Et puis, il y a une demande aussi du public. C'est-à-dire, dans les enquêtes de lectorat, de plus en plus revient cette idée que les gens veulent... alors, ils disent du positif, des raisons d'espérer, des initiatives concrètes. Vous voyez, le vocable diffère, mais on revient toujours à cette idée d'un journalisme de solution. Voilà, donc... Dès lors qu'il y a une demande, si les citoyens demandent une info plus utile et plus portée sur les solutions, est-ce que c'est pas notre rôle d'y répondre? Vous voyez, donc ça fait avancer, c'est tout un faisceau d'indices qui fait avancer la cause.
Vous-même, vous avez travaillé, vous avez écrit avec Stéphane Hessel, Engagez-vous. Là, vous venez de parler longuement du fait qu'il fallait que le lecteur agisse, ce serait le graal de l'article bien écrit en journaliste de solution. C'est important aujourd'hui en particulier de s'engager? Et pourquoi?
Alors moi, je pense...
Vous dites oui de la tête. Pourquoi?
S'engager, c'est important, pas seulement en tant que journaliste et pas forcément en tant que journaliste, mais en tant que citoyen. Moi, je pense par exemple à la dimension écologique. Aujourd'hui, il est indéniable qu'il y a une empreinte écologique, qu'il y a un impact de l'activité humaine, industrielle, enfin de notre activité sur les écosystèmes, et que si on ne fait rien, il y a danger. Donc, la question se pose après de la marge de manœuvre qu'on a. Est-ce qu'on va agir suffisamment vite? Est-ce que notre action seule suffira à freiner des phénomènes climatiques qui sont déjà en train de s'emballer? En tout cas, ça pose la question de l'engagement et de l'action. Quand bien même on aurait des doutes sur l'utilité de s'engager, je pense qu'aujourd'hui, on a de moins en moins le choix et on ne peut. C'est en s'engageant qu'on verra si ça a un impact. Il y a quelques années, j'ai écrit « Engagez-vous », en interviewant Stéphane Hessel qui avait écrit « Indignez-vous ». L'idée, c'était de dire « on ne peut pas simplement dire non, on ne peut pas simplement être dans la contestation permanente, il faut à un moment donné pouvoir dire oui, s'enthousiasmer, s'engager, prendre part à quelque chose ». Donc, on peut déconstruire, mais il faut construire en même temps. Et c'est là où il y a tout un champ d'alternatives qui est très intéressant à observer. Vous voyez, que ce soit des monnaies locales, de la relocalisation d'activités industrielles, du Made in France, des circuits courts, enfin, dans toutes les sphères de la société, dans l'économie, dans la santé, dans l'énergie, partout, il y a des initiatives autres, relativement nouvelles, qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc, je pense qu'en tant que citoyen, il est non seulement utile, mais inspirant et enthousiasmant de s'engager, de prendre part à ces mouvements-là.
Et du coup, le journaliste de solution, ce serait un pendant journalistique du mouvement d'engagement dont vous parlez, ou c'est plus large que ça?
Le journaliste de solution est, je pense, plus large que ça. Comme vous disiez, le journaliste peut rester neutre. Lui-même n'est pas tenu de s'engager. Il est là pour rendre compte de l'existence de ces mouvements, de ces alternatives, de ces initiatives. D'ailleurs, je parle d'alternatives, mais il y en a qui sont radicalement, qui remettent radicalement en question le modèle, par exemple, de consommation. Il y en a d'autres qui sont plus réformistes et moins contestataires. Vous voyez, est-ce que c'est à moi, journaliste, de décider de prendre un parti? Pas forcément. Vous voyez, moi, quand j'écris dans Libération, dans Le Figaro, je vais peut-être pas parler des mêmes initiatives. Mais voilà, je peux très bien, à un moment donné, parler d'une initiative sur l'emploi parce qu'il y a eu une flexibilité dans une entreprise qui fait que des personnes acceptent de travailler certaines semaines 30 heures et d'autres 40. Je vais trouver ça intéressant en tant que journaliste. Je vais me dire, il y a une matière intéressante. Il y a un consensus dans des entreprises, par exemple vendéennes, qui permettent de faire tenir l'activité économique et de conserver l'emploi, voire de le développer. Vous voyez, ça, on peut dire que ça répond à un prisme idéologique particulier. Mais je vais aussi m'intéresser en même temps à initiatives de coopératives où les salariés ont transformé leur boîte en coopérative parce que le dirigeant est parti, parce que les investisseurs et les directions prises par le groupe n'étaient pas satisfaisantes. Vous voyez, ça peut être de la contestation ou pas. Et moi, en tant que journaliste de solution, j'aime traiter de ces deux sujets à la fois, si vous voulez. Donc il n'y a pas forcément d'engagement idéologique, c'est ça que je veux dire.
Nina Facio représente le Solutions Journalism Network en France et en Europe. Elle répond aux questions de Mathilde Salio.
RFI.
Comment peut-on savoir s'il est pertinent d'aborder un sujet de façon journalisme de solution ou pas? Qu'est-ce qui nous permet de nous dire « Ok, celui-là, je vais aller chercher la solution, même si je ne l'ai pas soumis ».
Alors, il y a deux choses. C'est à quel moment c'est pertinent de faire du journalisme de solution? Nous, c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu sur un schéma qui est de dire est-ce qu'il y a une conscience suffisante du problème? Sinon, alors le journalisme traditionnel est certainement mieux adapté pour informer les gens sur ce problème. Si oui, est-ce qu'il y a une indignation suffisante par rapport à ce problème? Sinon, bah encore une fois, il faut travailler sur cette indignation qui est vraiment, en fait, décisive pour que les gens passent à l'action ensuite. Et si l'indignation est suffisante, alors oui, le journalisme de solution est tout à fait approprié. Après, il y a une autre chose, c'est est-ce que cette solution vaut la peine qu'on en parle ou pas? Ça, c'est vraiment un jugement, c'est le même jugement que qui nous aide à définir une bonne histoire, un bon scoop. Ou, voilà, c'est une petite partie de subjectivité, un petit peu d'honnêteté.
Et donc, ça veut quand même dire que ce type de journalisme est très dépendant, ou en tout cas accompagne les mouvements de population, on va dire, les mouvements d'indignation, les mouvements politiques ou citoyens en tout cas.
Pas forcément, hein. On a des problèmes qui sont là depuis des décennies. Hein. Le problème de la pollution, le problème du harcèlement sexuel, le problème de... des problèmes de santé, des problèmes de violence et des problèmes qu'on ressasse, qui sont là, qui sont endémiques et sur lesquels il faut qu'on avance.
Toujours dans votre optique de bien expliquer ce que c'est que le journalisme de solution, vous expliquez que c'est pas du tout antithétique avec, par exemple, du journalisme d'investigation. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ?
Parce que bien au contraire, ça se marie très bien avec le journalisme d'investigation, parce que pour qu'un journalisme de solution soit bon et bien reçu et fasse avancer le débat, fasse avancer la société, parce que finalement c'est ça l'objectif, il faut que la solution soit décortiquée, il faut qu'elle soit expliquée en détail, il faut que les limites soient expliquées. Parce que pour que, par exemple, une communauté extérieure puisse se servir de cette solution pour sa propre réalité, il faut des détails. Il faut de l'analyse, il faut être sérieux. Donc ça, c'est vrai que ça se prête très bien aux journalistes d'investigation. Et souvent d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été anticipé, mais le journalisme de solution, lorsqu'il est vraiment très bien fait, peut avoir le même impact que le journalisme d'investigation. On a vu par exemple une longue enquête aux États-Unis sur la contamination par le plomb des maisons qui avaient, donc c'est dans la peinture, hein, le plomb est dans la peinture, et c'est vrai qu'il y a une contamination qui se fait surtout chez les femmes enceintes et les enfants. Et la ville de Cleveland, donc c'est un journal local qui s'appelle le Plain Dealer, a pris le parti de dire nous on a ce problème, il y a certainement d'autres villes aux États-Unis qui avaient le même problème, et est-ce qu'il y en a qui ont su répondre mieux que nous? Ils ont fait une longue enquête sur la ville de Rochester qui avait vraiment montré des résultats épatants. Et l'impact que ça a eu, ça a été que des fonctionnaires ont été limogés, le programme a été changé, l'État a mis les pressions sur la municipalité. C'est un peu des conséquences qu'on voit plutôt après des investigations, quoi, de dénonciations, et qui en fait peuvent aussi subvenir parce que en montrant qu'une solution marche ailleurs, on met la pression sur les autorités en disant si ça marche ailleurs, pourquoi nous on fait rien?
Le simple fait de sortir cet article a eu un effet sur la vie politique locale, mais est-ce que le but c'est aussi vraiment de faire agir les lecteurs, de faire agir les citoyens en sortant ce genre d'histoire?
Alors le fait de les impliquer dans la résolution d'un problème, évidemment c'est idéal, j'ai envie de dire, puisque le but c'est d'améliorer la société. Après, encore une fois, on est assez conservateur et on ne va pas pousser le lecteur à agir pour une cause plutôt qu'une autre. On va le laisser faire sa propre conclusion, voir si c'est la solution qui lui paraît adaptée à son propre contexte. Donc on ne va jamais suggérer au lecteur de prendre action pour une cause plutôt qu'une autre.
Je m'appelle Damien Allemand et je suis responsable digital du groupe Nice Matin.
Depuis octobre 2016, sur Nice Matin, il y a une nouvelle rubrique, la rubrique Solutions, qu'on voit bien parce qu'elle est en jaune. C'est quoi exactement ?
C'est une petite partie de l'offre abonnée de Nice Matin qu'on a lancée en janvier 2016. C'est une rubrique éditoriale, sans pub, avec uniquement du contenu tourné vers les initiatives qui vont dans le bon sens. Donc c'est pas des bonnes nouvelles, mais on part de problèmes et on va mettre en lumière des gens qui sur nos territoires, donc dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, travaillent à résoudre ce problème. Et donc il y a des sujets d'initiative de nos journalistes, et après il y a surtout des dossiers, et ces dossiers-là on les fait voter par nos abonnés sur des grandes thématiques, des grandes problématiques de nos territoires.
Le quotidien régional Nice Matin est un des meilleurs exemples français de ce qu'on peut faire dans le journalisme de solution. Son groupe, qui détient également Monaco Matin et Var Matin, était en redressement judiciaire en 2014. Pour sauver l'entreprise, ses journalistes se sont battus, ils s'en sont devenus actionnaires, ils ont trouvé des investisseurs vertueux, ce sont leurs mots, et ont fait appel à la générosité de leurs lecteurs qui ont fourni 300 000 euros. C'est dans ce contexte qu'a été lancée la rubrique Journalisme de solution.
Donc la rubrique solution, elle est née quand on s'est aperçu que c'était la facette éditoriale et l'approche solution de nos papiers qui déclenchait le plus d'abonnements auprès de nos lecteurs. On a une offre où il y a 5 piliers, le journalisme de solution, des événements, la possibilité de commenter les papiers, le journal en PDF et un journal personnalisé. On ne communique jamais sur les 5 arguments. On les communique séparément, et c'est quand on évoque le journalisme de solution, les enquêtes d'initiative et les mises en lumière des gens qui se bougent, c'est cet argument-là qui nous ramène le plus d'abonnés. Et on s'est dit, et c'est des papiers qui faisaient beaucoup d'audience, et on s'est dit qu'on allait promouvoir encore plus en fait cette approche-là de Nice Matin, parce que déjà ça nous permettrait d'avoir peut-être plus d'abonnés, et surtout c'est des papiers qui rencontraient un gros succès. Donc l'enjeu c'était que quand on arrive sur le site de Nice Matin, on voit tout de suite les solutions au premier coup d'œil.
Chez Nice Matin, le journalisme de solution, c'est aussi une affaire de collaboration avec les abonnés. Une manière de souligner la relation particulière qui s'est tissée entre les lecteurs et les journalistes, les lecteurs qui ont permis de reprendre le journal.
On se réunit avec la petite équipe de journalistes solutions, on évoque plein de sujets. Nous, on en retient trois. On fait des petits pitchs. Donc on va dire, voilà, l'homme et le loup. Donc on va dire, au mois de janvier, il y a eu tant d'attaques de loups, tant de bêtes tuées, tant de manifestations, tant de problèmes, Enfin, on va expliquer vraiment le problème en 15-20 lignes. On va pitcher en fait les trois propositions de sujet et on va les envoyer à nos abonnés en newsletter. Ça va durer 4-5 jours. Et puis après, on regarde les résultats. Une fois qu'on a les résultats, on commence à enquêter sur ces sujets-là. Donc il y a les sujets où on va trouver nos sources à nous parce qu'on sait qu'il y a déjà des bonnes initiatives dans nos départements. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne voit pas parce que on est peut-être 190 journalistes à Nice Matin, mais on n'est pas partout. Et il y a toujours un expert plus expert que nous. Et donc du coup, on va même très souvent faire appel à nos abonnés pour qu'ils nous donnent, eux, des sources et des exemples pour que nous, après, on aille enquêter sur le terrain. En fait, c'est des enquêtes un peu participatives, mais ça contribue à avoir un meilleur lien avec nos abonnés. Ils s'impliquent en fait dans la préparation et la rédaction de l'enquête.
Pourquoi vous avez voulu mettre l'accent sur ce travail collaboratif avec les abonnés ?
À la base, c'était juste un délire. C'était juste un délire où on se disait un soir autour de pizza, comment en fait on va scénariser nos papiers solutions. La base de l'offre, c'était juste voilà, on va faire des enquêtes solutions. Et puis rapidement, en déconnant, on s'est dit tiens, et si on faisait voter les sujets. Ce matin, on a une histoire intime avec nos lecteurs. Ils nous ont aidés à racheter notre entreprise avec un crowdfunding. Et donc du coup, c'était une espèce de clin d'œil participatif à cette époque-là où en gros voilà, vous nous avez aidés, maintenant aidez-nous à faire nos enquêtes, participer, c'est un renvoi d'ascenseur, participer à nos enquêtes, vous avez permis de sauver le journal, participer à nos enquêtes, et c'est une des facettes de l'offre qui est le plus appréciée par nos abonnés et qui en tout cas fait beaucoup parler. Un bon exemple, en tout cas d'approche solution sur un sujet, c'est un dossier qu'on a fait l'année dernière sur la thématique de la cohabitation entre l'homme et le loup. Donc pour resituer le problème, on a un gros souci dans les Alpes-Maritimes avec le loup. Il y a tous les ans de nombreuses attaques de loups sur des bergers qui attaquent des troupeaux, donc des centaines de bêtes qui meurent chaque année. Et donc là, on avait un traitement éditorial qui se contentait de dire ben voilà, il y a eu une attaque de loups cette nuit dans tel secteur. Il y a tant de bêtes de Monsieur X qui ont été tuées dans cette attaque. Derrière, il y avait une manifestation des anti-loups qui demandaient qu'on abatte plus de loups. Puis après, le jour d'après, il y avait une contre-manifestation des pro-loups qui, eux, militaient pour la sauvegarde du loup. Et du coup, on avait un espèce de débat stérile qui durait plusieurs jours avec des anti qui s'affrontaient d'un côté, les contre, le préfet qui allait dire « ben oui, on va abattre encore plus de loups ». Et finalement, il n'y avait rien qui avançait. Et chaque année, c'était la même chose. Et voir la semaine d'après, il y a encore une attaque de loups. Donc nos abonnés ont voté pour ce sujet-là. Et on a une journaliste qui est partie en Italie, donc de l'autre côté de la frontière des Alpes-Maritimes, donc à 50 km à peu près de là où il y avait eu une attaque de loup. Et en fait, de l'autre côté de la frontière, les bergers, ils n'ont aucun problème avec le loup. Donc on s'est dit que ce n'était pas normal. Et donc en passant du temps avec ce berger-là, la journaliste s'est rendu compte que en fait, le berger italien avait complètement changé sa manière de travailler et travaillait complètement différemment des bergers français. Il avait réduit la taille de ses troupeaux. Il avait rajouté plusieurs chiens pour son troupeau. Le soir, il dormait avec ses bêtes. Il avait installé des petites loupiottes autour de ses bêtes pour effrayer le loup. Et en 2 ans, il avait eu 0 attaque de loup. Sur les réseaux sociaux, on a des forts taux de partage qui sont en général 2 fois supérieurs à un article classique. Et notamment pour la vidéo, où la vidéo sur Facebook, on poste régulièrement des teasers de nos articles en natif sur Facebook. Donc c'est un peu tronqué parce que ça se lit en autoplay. Mais la vidéo la plus lue sur la page Facebook de Nice Matin, c'est une cantine exemplaire à Montsartou. On pourrait s'attendre à ce que ce soit l'attentat de Nice, par exemple, des réactions ou des images d'après. Bah, pas du tout. C'est une cantine à Montsartou qui, en fait, dans le cadre du dossier sur le gaspillage alimentaire, a complètement refait sa méthode de distribution de la nourriture à la cantine en adaptant les quantités au profil de l'élève. Donc, par exemple, au lieu de donner une pomme entière à chaque élève, elle donne des quarts et du coup, elle a réduit de 60% quasiment ses déchets. Et donc, du coup, on a fait un reportage là-dessus et ce reportage, il a été vu 3 millions de fois sur Facebook.
Je crois qu'il y a une petite équipe qui est dédiée à la rubrique solution. Donc là, vous me dites oui de la tête. Quels sont les échanges, en fait, entre, on va dire, journalistes traditionnels et journalistes de solution?
Alors c'est assez compliqué de les faire travailler ensemble parce qu'ils sont pas du tout sur le même rythme. À Nice Matin, on est un quotidien, le journal sort tous les jours, il y a quand même beaucoup d'actu, donc on a à côté une petite équipe qui travaille sur des sujets au long cours, donc sur les sujets solutions. Maintenant, ce qu'on observe aujourd'hui, après deux ans, c'est qu'il y a de plus en plus de journalistes traditionnels, entre guillemets, qui nous proposent des sujets. Et qui, en gros, nous appelle en disant, voilà, la semaine dernière, j'ai vu telle personne qui bidouille ça dans son garage parce qu'il a repéré qu'il y avait ça qui n'allait pas dans son quartier. Est-ce que ça vous intéresse sur la rubrique solution? Ça, c'est une des grosses progressions qu'on a eues. La deuxième progression, c'est qu'au départ, c'était compliqué d'avoir des papiers solutions dans le journal. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'au départ, il y avait ce truc de « c'est pas du journalisme, peut-être ». Et aujourd'hui, ben, nos journalistes sont convaincus que ça fonctionne et que ça intéresse les lecteurs. Il y a moins de réticence qu'au lancement pour intégrer des articles solutions dans le journal. Maintenant, on n'est pas encore allé au bout de la démarche. Pour moi, ce serait bien qu'on ait bientôt une rubrique vraiment dédiée sur le papier, avec où on sait que tel jour, il y a une page solution ou un article solution, mais à une fréquence régulière et pas suivant les aléas de l'actu.
Qu'est-ce que ça a changé à votre forme de pratique du journalisme de vous tourner vers cette vision positive des choses, on va dire?
Ben, l'implication des lecteurs, elle est. Je pense que c'est quelque chose qui a été perdu par les journalistes avec le temps, où on a longtemps ne pas été confronté justement à nos lecteurs. Bon, c'est un truc que le web a complètement changé. Maintenant, on sait combien notre article est vu, on sait combien notre article a donné des abonnements, a été commenté, et du coup, c'est une espèce de reconnexion avec son audience. Un truc qui a été complètement perdu par les journalistes. D'avoir donné la possibilité à nos abonnés de voter sur les sujets, c'est un truc. Ça peut paraître comme un gadget, mais un, c'est super fort, et deux, c'est super déstabilisant pour un journaliste. Il faut déjà qu'il accepte de se dire bah, « Tiens, bah, mon rédacteur en chef, c'est pas un gars avec une cravate dans un bureau qui va me dire sur quoi je vais faire mon sujet. Mon rédacteur en chef, c'est mon lecteur. » Ce qui, en fait, devrait être le cas dans tous les journaux. On écrit quand même pour des gens. Et du coup, en fait, on a changé cette approche-là parce qu'un journaliste, normalement, il cherche un sujet, il va le proposer à son rédacteur en chef qui va dire « Oui, non, mais dans son bureau. » Et là, en fait, on a des journalistes qui vont chercher des sujets, toujours, qui vont les pitcher, qui vont les présenter à ses lecteurs, et c'est eux qui vont choisir. Et ça, c'est super déstabilisant pour un journaliste, parce qu'il ne s'attend jamais, le lecteur est jamais là où on l'attend. Mais du coup, ça prouve aussi que les journalistes sont peut-être déconnectés des attentes de leurs lecteurs, et qui peut expliquer aussi pourquoi la presse est un secteur qui va très bien.
C'était « Qu'est-ce que le journalisme de solution ?» une émission, une question de Mathilde Saliou pour l'Atelier des médias, réalisation Simon Decreuse et Laurent Salerno. Merci à eux. Au micro, Ziad Malouf, en coulisses, Léo Caravagna et Camille Deloche.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'essai d'Émilie Kovacs, « Journalisme de solution ou la révolution de l'information » qui vient tout juste de paraître. Si vous cherchez des exemples d'articles, vous pouvez en trouver évidemment dans les pages d'Imagine Demain le Monde dont on a parlé en tout début d'émission, mais aussi sur les sites par exemple d'Ouzbek Erika, du Figaro, ils ont une rubrique qui s'appelle « Le Figaro Demain » ou bien de Reporter. À noter enfin la prochaine édition de l'Impact Journalism Day, le jour du journalisme d'impact que Spark News organise chaque année. Pour 2018, ça aura lieu le 16 juin. À cette occasion, il y a une cinquantaine de médias qui vont diffuser des articles de solutions qui ont été découvertes partout dans le monde. Que vous lisiez donc Le Soleil au Sénégal, L'Économiste au Maroc ou Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, par exemple, vous aurez l'occasion à ce moment-là d'en apprendre plus sur différentes initiatives utiles.
Merci Mathilde, salut à toutes et à tous.